31 mai au 4 juin, RCF Charente célèbre les 40 ans de la Radio Libre. Au programme, une semaine de souvenirs, d'actualités et d'avenir de la radio. Nous donnerons la parole à toutes celles et tous ceux qui ont fait, font et feront ce média multiple. Radio FM, web radio, radio scolaire, podcast, de la 16 à Zaïzaï, de Radio Attitude à RDC. Toutes les radios, fêtent les 40 ans de la radio sur RCF Charente du 31 mai au 4 juin. Vivez la Radio Libre.
RCF Charente.
Et il est déjà 15h02 sur RCF Charente pour reprendre l'antenne sur cette émission spéciale consacrée aux 40 ans de la radio et aux 100 ans des radios en général, enfin de la première diffusion FM depuis la Tour Eiffel. Aujourd'hui avec nous Jean-Luc Delétage, bonjour.
Bonjour.
Un historique de la radio ici en Charente, hein. Si je vous parle de Radio Marguerite, Fréquence 92, Radio 102, Renaissance, autant de radios que vous avez connues.
Connu,
participer non, puisque chacune était plus ou moins concurrente de l'autre. Hein.
Oui, oh, pas vraiment.
Pas vraiment ?
Non. Chacun avait vraiment son style, était marqué, comme on vient de parler, des radios de presse, des radios politiques, des radios communautaires. C'est pour ça que je n'aime pas du tout le terme radio libre, parce qu'il n'y en a jamais eu, et il n'y en aura jamais. Il y avait des radios privées.
Et Radio Libre, non, de toute façon, ça n'a jamais vraiment existé. On est tous rattachés à quelque chose, à quelqu'un.
Sauf en Charente. Saviez-vous que la première radio libre et pirate est charentaise ?
En France.
Elle est charentaise. Elle date de 1959. Elle émettait sur deux fréquences en ondes moyennes et une fréquence en ondes courtes. Elle était captée jusqu'en Afrique du Nord. Et ce personnage donc, qui avait créé cette radio, il l'animait le week-end, etc., deux fois le soir. Et le personnage qui avait créé cette radio, c'était Raymond Brottier, qui avait un magasin de postes de radio, etc. Il habitait à Ruffec et c'est lui qui a créé Ruffec Radio après.
D'accord.
Pour la petite histoire,
mais bon.
Mais lui était complètement libre, complètement pirate en plus.
Pirate, oui, c'est ça.
Ah, il s'est fait saisir, tout. Oh là là, c'était loin.
Mais donc c'était plus qu'un passionné, hein, c'était vraiment un professionnel pour le coup.
Professionnel
de la diffusion.
De la diffusion.
Alors après, il a fallu attendre 1981, cette libération des ondes pour. Et mettre en toute légalité, j'allais dire, mais certains avaient commencé avant.
Oui, mais 80, la légalité, c'est faux. La légalité, la libération. Du monopole d'État est arrivée en 82. C'est-à-dire que François Mitterrand avait promis la libération de la bande FM avant les élections. Et dès qu'il y a eu des élections, on ne parle plus des radios FM. On n'en parle plus du tout. Donc tout le monde s'est mis à émettre. Donc ça a été... Il y avait près de 1500 radios en France.
Ouais. C'était un peu la cacophonie.
Oh, totalement, mais c'était bien. et Mitterrand ne voulait pas autoriser les radios FM. Et c'est en 82, suite à la création de la Haute Autorité, etc., avec Filiou et la bande... qu'ils ont donc libéré la bande FM en interdisant la publicité. Donc forcément pas de revenus, donc les radios les plus précaires allaient mourir de tout simplement.
Tout simplement, ouais.
Voilà. Et puis création des réseaux FM, donc rachat de fréquences de radio en province par de grosses stations parisiennes. Parce que quelque part, d'un point de vue politique, c'est plus simple de contrôler 10 têtes de réseau à Paris que 1500 radios FM en France.
Ça, je peux bien le croire. Ouais.
Voilà.
Mais de toute façon, les radios ont quand même survécu, sont arrivées à faire de la publicité, à en vivre un peu. Hein. Il y a quand même eu de l'évolution.
Mais il y en a qui en vivent toujours, bien sûr. Mais il a fallu quand même l'apparition des franchises. Pour vraiment avoir une manière de travailler professionnelle et commercial pour pouvoir en vivre.
Mais quand même, des radios dans les années 80, c'était déjà structuré, vous proposez un programme, une programmation, un planning de diffusion. On faisait pas
oui.
complètement n'importe quoi.
Si. Ah, mais c'est ce qui était très bien. Mais c'est ce qui était merveilleux. On faisait absolument n'importe quoi. Mais on faisait des choses, mais suivant l'heure quand même. On n'était pas trop fou. Enfin, si, mais quand même, on avait une certaine logique. Il y a des émissions que l'on pouvait diffuser en pleine nuit qui étaient hors de question de faire le matin. Bon, faut pas non plus. Mais personne ne savait faire de la radio. C'est ce qui était intéressant. Et c'est à ce moment-là, dès le début, où il y a eu les radios qui se sont prises pour des grandes, avec des grilles antennes déjà bien structurées.
Vous parlez de fréquence 92, peut-être, là.
Oh, je parle en France, hein, là,
oui.
Mais Angoulême, 92. Ouais. Quand Renaissance s'est créée, c'était pareil. Et d'autant plus que Renaissance imitait Alouette FM,
ouais.
La radio de M. Devilliers.
Donc, ils se prenaient pour des pros.
Ah, mais eux, ils essayaient de faire de la radio, mais que tout le monde connaissait. C'était la radio de papa, entre guillemets, c'est pas péjoratif du tout. Mais ils faisaient de la radio, comme les périphériques, Europe 1, RTL, RMC, etc., faisait depuis des dizaines d'années. Il fallait l'émission de voyance, les infos, les magazines, etc.
Oui.
Mais les autres, non, on n'en avait rien à faire. Ils faisaient leur truc. Complètement du style radio Lumo, qui était une radio de quartier qui est devenue Énergie. Il y avait radio Horizon FM à Victor Hugo. Il y avait la plus célèbre des radios libres en Charente. Là, on peut dire libre, ouais. Parce que c'était Couleur Radio avec Marcel Bureau. Le personnage et ses studios étaient dans une caravane.
Ouais. Bernard Vaccara était avec nous hier, l'actuel vice-président de cette radio.
Oui.
On n'a pas parlé de la caravane, c'est vrai, c'était épique ce moment de caravane.
Mais ça a duré des années, la caravane. J'ai un enregistrement... Pardon. D'une émission qui date de Noël 89. Il y a Marcel Bureau qui est seul dans son studio caravane. Il est tout seul. Un soir de Noël 89. Il fait des dédicaces pour tous ses auditeurs. Et ça n'arrête pas d'appeler. Il est heureux.
Mais ça, c'était possible à l'époque. Aujourd'hui, je ne sais pas si ça marcherait aussi facilement, aussi bien. Croyez ?
À l'époque, on faisait de la radio que l'on aimait, de la radio qui ne se faisait pas ailleurs, donc quelque part qui répondait à une autre demande des auditeurs. Les auditeurs étaient curieux, voulaient entendre autre chose, quoi.
Ouais.
Qui peut dire que réaliser d'une manière plus professionnelle ce type de radio qui sort un petit peu des sentiers battus? Pourquoi pas? Au contraire.
Oui, vrai.
D'une manière carrée. Attention, il ne faut pas non plus... Mais bon. À Radio 102, par exemple, tous les dimanches, il y avait rencontre du 102e type. Alors, il y avait tous les animateurs. Même le dirigeant, M. Patrick Tangou, qui était prof à Saint-Paul, il était chez lui au téléphone. Les animateurs étaient au téléphone. Tout le monde prenait des noms russes. Alors Darko, c'était le professeur Darkov. Pascal Duchesneau, c'était professeur Duchesneau. Et de 20h jusqu'à minuit, en direct au téléphone, plus ceux qui étaient en studio. Mais ça racontait n'importe quoi sur les envahisseurs. Et les appels téléphoniques, les gens qui appelaient, et c'était tous les dimanches soirs.
Et c'était de la radio en télétravail, même déjà.
déjà, oui.
Donc vous, c'était Radio Marguerite, hein, surtout.
Non.
Non, pas que.
J'ai commencé avant, avant l'élection de Mitterrand.
Ouais.
Avec un lecteur cassette. Pour ceux qui se souviennent ce qu'est un lecteur cassette. Et branché sur une minuterie. Donc on enregistrait une émission qui durait une demi-heure, trois quarts d'heure, suivant la longueur de la cassette. Branché sur une minuterie, le tout branché sur un petit émetteur, mais un tout petit émetteur, une antenne accrochée sur un toit, et tous les deux jours à 20h, il y a la minuterie qui se mettait en marche, l'émission qui partait et l'émetteur qui se mettait en marche. Mmh. Et
ça, c'était interdit.
Ah ben, c'était totalement interdit. Donc c'était la course. C'était la course au chat et à la souris. Mmh. Entre les forces de l'ordre et nous.
Donc, bien évidemment, vous changez de
lieu. Tous les deux jours. À chaque fois, on changeait de grenier, on changeait de toit. Donc, ça, c'était drôle.
Le chat et la souris. Hein.
Ah oui, c'est ça, oui. Ouais. Puis après, pour ma part, il y a eu Angoulême Radio. Mmh. Et les premiers studios, c'était dans un grenier sur les remparts. Et là, c'était pareil. C'était les. C'était des mots, parce qu'on avait entre 15 ans et puis 18 ans, 19 ans, quoi. C'était. Mais il y avait toujours de la création. Il y avait un feuilleton tous les soirs qui passait de 19h à 20h. Ouais. Seul problème, c'est qu'on était en plein été, que dans le grenier, il faisait très chaud, ouais. Et qu'on enregistrait le feuilleton sur magnétophone à bande. La nuit, bien arrosée. Donc souvent, le lendemain, à la diffusion, il y avait quelques surprises quand même.
Ouais. Mais comment c'était connu parce que les bouche à oreille, d'accord, mais comment le public arrivait à vous retrouver, à savoir qu'il y avait cette radio-là qui émettait?
Ben, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de radios, il y en avait deux. Il y avait Renaissance FM et il y avait 102. Et je me souviens que la fréquence de Renaissance FM avait été choisie. Astucieusement, je crois que c'est Jean-Louis Mathieu qui avait trouvé la petite astuce. Quand les gens appelaient la radio et demandaient la fréquence, ils disaient « Vous vous mettez en grandes ondes, vous vous mettez sur France Inter et vous appuyez sur la FM et vous êtes sur notre fréquence. » Et nous, ça s'est su avec les articles, la Charente Libre.
Oui, parce que la presse était là derrière pour vous aider.
Oui. Non, puis il y avait deux radios,
ouais.
À l'époque. Mais les gens étaient curieux. C'était, et ces premières stations étaient en mono.
Mmh. Ah ben, j'en connais d'autres qui émettent en mono. Hein. Nous émettons en mono toujours ici à RCF Charente.
Mmh. Mais vous émettez plus loin. Si vous émettez, vous émettez plus loin de meilleure qualité. Mais... mais je me souviendrai toujours de la première fois, en 82, où sur un poste de radio, le voyant vert stéréo s'est allumé et le son était ample, le son était stéréo. C'était magique.
Un souvenir de radio donc de Jean-Luc Delétage sur RCF Charente. On se retrouve dans un moment, on écoute un tube des années 70, mais qui a beaucoup tourné sur les ondes dans les années 80, Lagrange avec ZZ Top.
Rumors spreading round in that Texas town about the shack outside the game. You know what I'm talking about.